Le journal Pierre Veil, bonjour.
Bonjour à tous. Aux États-Unis, un employé municipal tue 12 personnes dans une station balnéaire de Virginie. Point culminant du voyage du pape François en Roumanie, une messe géante en ce moment en Transylvanie devant des pèlerins catholiques de langue hongroise. En Russie, le film qui raconte la vie d'Elton John, Rocketman, censuré, le distributeur a coupé des scènes d'amour homosexuel. Des députés, les Républicains, veulent créer un nouveau groupe à l'Assemblée nationale, une dissidence, après l'échec aux européennes. Nous écouterons l'un de ses élus, Jean-Carl Grelier. Les 10 ans du RSA, quel bilan pour ce revenu de solidarité active qui devait encourager les chômeurs à retrouver un emploi et endiguer la pauvreté? Nous interrogeons Anne Hédoux, qui est économiste au Conservatoire national des arts et métiers. Roland Garros, cet après-midi, duel franco-français, Gaël Monfils face à Antoine Wang pour une place en huitième de finale. On écoutera Antoine Wang, certainement une des révélations de ce tournoi. Le football, sécurité maximum à Madrid avant la finale 100% anglaise de la Ligue des Champions ce soir. Liverpool-Tottenham, des dizaines de milliers de supporters britanniques sont dans la capitale espagnole. Les livres en compétition pour le Livre Inter, décerné le 9 juin. Aujourd'hui, Elisabeth Fiol avec Doggerland.
France Inter.
Une nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis, énième tragédie dans ce pays marqué par la violence des armes à feu. Elle s'est produite à Virginia Beach, une ville de 450 000 habitants dans l'état de Virginie, à 300 km au sud de Washington. Un employé des services municipaux a ouvert le feu hier après-midi dans un bâtiment de la ville, faisant 12 morts avant d'être lui-même abattu par la police. La question des violences armées prend une dimension particulière dans l'état de Virginie. C'est là-bas, dans cet état, que siège la NRA, la National Rifle Association, le premier lobby des armes à feu aux États-Unis. À Washington, Gregory Phillips.
Le chef de la police de Virginia Beach révèle l'identité du tueur. Il s'appelle Dwayne Craddock, mais précise-t-il, par respect pour les victimes et leurs familles, il ne donnera son nom qu'une seule fois et fera désormais référence à lui comme étant le suspect. Le suspect donc est un homme de 40 ans. Il était un employé municipal chargé notamment des routes. Pour l'instant, explique le shérif, sur ses motivations, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Les médias locaux évoquent le fait que c'était un salarié mécontent, sans donner plus de précisions. Hier après-midi, l'individu a pénétré à l'intérieur de ce bâtiment municipal, armé d'un pistolet semi-automatique de calibre 45, acheté légalement apparemment, équipé d'un silencieux. L'homme avait aussi sur lui de nombreux chargeurs. Il a ouvert le feu indistinctement à 3 étages de l'immeuble, puis a entamé avec les policiers dépêchés sur place un long échange de coups de feu avant d'être abattu. Le bilan est très lourd, 12 morts, la pire tuerie aux États-Unis depuis le début de l'année. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
Le pape François est en Roumanie jusqu'à demain. Point culminant de ce voyage, une messe géante ce matin dans la campagne de Transylvanie, au pied des Carpates, une région aux velléités autonomistes. La plupart des fidèles sont des Roumains de langue et de culture hongroise. C'est un territoire rattaché tardivement à la Roumanie. Sur place, Mathilde Imberti.
Quand Jean-Paul II vient en Roumanie en 1999, les autorités limitent son séjour à Bucarest. Impossible de se rendre dans une région comme la Transylvanie, une poche catholique dans un pays majoritairement orthodoxe. Le pape François a lui conditionné son voyage aux rencontres avec les minorités. Il se retrouve en ce samedi pluvieux à célébrer la messe pour une foule recueillie devant le principal sanctuaire marial de la région.
Partir en pèlerinage, c'est savoir que nous venons comme peuple. Un peuple dont les 1000 visages, cultures, langues et traditions sont la richesse. Partir en pèlerinage, c'est le défi de découvrir et de transmettre l'esprit du vivre ensemble.
Ici, on est citoyen de Roumanie, mais de nationalité hongroise, comme le raconte Ola Zoltán, un professeur à la faculté de théologie, volontaire pour l'organisation de l'événement.
Tous, nous voudrions que les droits de la minorité hongroise soient plus respectés. Par exemple, lorsqu'on va dans un service public, on n'a pas le droit d'utiliser notre langue.
Après la messe, le pape reprend la route pour 4 heures de trajet sinueux. Son hélicoptère ne peut pas décoller, la météo est trop mauvaise. Direction le nord-est du pays, la Moldavie roumaine, suite du périple. Simeon Leuchouk, en Transylvanie, Mathilde Imberti, France Inter.
Elton John est populaire en Russie où il s'est produit pour la première fois en 1979 pendant la période soviétique. Le film qui raconte sa vie agitée est très attendu là-bas. C'est Rocketman qu'on peut voir en France actuellement. Mais les Russes ne verront pas le même film que nous. Les scènes d'amour homosexuel et de consommation de drogue ont été retirées de la version russe à Moscou. Claude Bruyot.
Rendre le film conforme aux lois de la Fédération de Russie. Pour le distributeur local à Moscou, l'interdire aux moins de 18 ans n'était donc pas suffisant, et les exemples sont nombreux, à partir desquels on constate un véritable renforcement de la censure, voire de l'autocensure. En 2017, une scène dans laquelle apparaissait un danseur nu à l'occasion d'un spectacle du Bolchoï sur la vie de Noureyev a valu à son metteur en scène, Kirill Serebrennikov, plus d'un an et demi d'assignation à résidence, justifié officiellement devant les tribunaux par des accusations de détournement de fonds publics que l'intéressé a toujours réfuté. Le spectacle final, pour autant retouché, n'en avait pas moins obtenu un franc succès. Et il est probable que Rocketman, même censuré, sera lui aussi plébiscité. De là à dire qu'il y a aujourd'hui un décalage entre la loi et la société russe, rien n'est moins sûr. En revanche, les côtés aléatoires de la censure voulue par le Kremlin apparaissent au grand jour. L'an dernier, Bohemian Rhapsody, le film qui raconte la vie du chanteur homosexuel de Queen, Freddie Mercury, comporte lui aussi des scènes où, par exemple, l'acteur principal embrasse un autre homme, sans que la censure russe, cette fois, ne se sente concernée par la question. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Retour en France, après l'échec des Républicains aux élections européennes, une vingtaine de députés LR envisagent de créer un nouveau groupe à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine. Ils ne se reconnaissent plus dans la ligne politique du président du parti, Laurent Wauquiez. Parmi eux, Jean-Carl Grelier, député de la Sarthe. Il a expliqué sa décision ce matin au micro de Matteo Maestracci.
Je constate que depuis 2 ans, la ligne de Laurent Wauquiez est une ligne qui ne laisse plus d'espace à cette droite libérale, sociale, européenne que j'incarne et à laquelle j'aspire. Dans l'immédiat, il n'est pas du tout question de rejoindre La République En Marche. Et quand bien même notre initiative collective viendrait à ne pas fonctionner la semaine prochaine, moi je quitterai vraisemblablement les Républicains et je n'irai pas à La République En Marche pour autant. Parce qu'il faut une fois encore que nos idées, qui sont les idées de droite, qui correspondent à une certaine frange de la population, qui correspondent aussi à une histoire politique de ce pays, continuent d'exister et continuent de faire rempart au Rassemblement national. Donc il est grand temps que le centre droit, qui n'est pas un centre mou, qui n'est pas l'auberge de tous les consensualistes possibles, que ce centre droit existe et puisse être entendu. Et comme on n'arrive pas à le faire à l'intérieur républicain, on ira le faire ailleurs.
Pour la 29e fois, les Gilets jaunes appellent à une nouvelle journée de manifestation aujourd'hui à Paris. Interdiction de manifester sur les Champs-Élysées. Les stations de métro du secteur sont fermées. Partout en France, la mobilisation est de plus en plus faible ces derniers week-ends. Mais de nombreux Gilets jaunes ne veulent pas renoncer à défendre leurs revendications. Frédéric Denis de France Bleu Gascogne a rencontré un couple de Gilets jaunes, Miozette et Jean-François, au nord de Mont-de-Marsan.
Dans sa maison isolée au milieu des pins, Miozette termine la salade composée qu'elle partagera ce midi avec ses amis gilets jaunes du Marsan.
Des tomates, des pâtes, des haricots rouges, puis on fait aussi du barbecue.
32 degrés prévus cet après-midi à Mont-de-Marsan. La retraitée distribuera pourtant des tracts aux automobilistes pendant 5 heures au rond-point de Saint-Avit, comme elle le fait depuis 29 semaines maintenant, chaque samedi avec son mari Jean-François, des tracts pour appeler à rejoindre les gilets jaunes.
L'important c'est qu'on soit sur place, c'est qu'on soit là, c'est qu'on se montre. Avec le gilet jaune, qu'on soit visible. On espère bien que ça va repartir, qu'il va y avoir une étincelle justement qui va faire exploser, que les gens vont être motivés comme au début.
Car de 200 gilets jaunes sur le rond-point de Miozette le 17 novembre, on est vite redescendu à une trentaine. Pour Jean-François, la hausse de près de 6% du tarif réglementé de l'électricité ce samedi peut relancer le mouvement.
C'est un bon point d'appui pour sensibiliser les gens au fait que ce qui avait été reporté en janvier va être payable en juin. On rajoutera aussi les augmentations habituelles du gaz et sans doute aussi les assurances pour faire en sorte que le package d'augmentation nous permette de mobiliser les gens en fait.
L'objectif des Gilets jaunes du Marsan, c'est de maintenir la mobilisation jusqu'en septembre. Jean-François explique que la France n'a jamais connu de mouvements sociaux d'ampleur en plein été.
Voilà, enquête de Frédéric Denis de France Bleu Gascogne. C'était il y a tout juste 10 ans, le 1er juin 2009, en pleine crise économique, le RSA, revenu de solidarité active, remplaçait le revenu minimum d'insertion. Objectif du RSA, encourager les chômeurs à retrouver un emploi et à le garder. En ligne avec nous, Anne Edou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste au Conservatoire national des arts et métiers et membre des économistes atterrés. Le RSA devait devenir l'outil principal de combat contre la pauvreté et faciliter la réinsertion professionnelle. 10 ans après, ces objectifs, selon vous, ont-ils été atteints ?
Alors, disons que le RSA a remplacé deux anciens minima sociaux, le RMI et l'allocation de parents isolés. Et effectivement, l'objectif qui était annoncé, c'était de ramener massivement les allocataires vers l'emploi. Et en réalité, on avait un discours comme celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qui sous-entendait que si les allocataires n'avaient pas d'emploi, c'est parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Et en réalité, avec les mesures qui ont été mises en place par le RSA, on n'a eu aucun effet sur le taux de retour à l'emploi des allocataires, parce que précisément le problème n'était pas qu'ils ne voulaient pas travailler, mais qu'ils ne trouvaient pas d'emploi. Et on a eu très peu d'effets sur le taux de pauvreté.
À son entrée en vigueur, le RSA bénéficiait à 1 200 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont 1 800 000 à le toucher. Pour vous, ces chiffres signent un échec ?
Alors déjà, on ne parle pas de personnes, c'est très important, on parle de foyers, hein, c'est-à-dire oui. Qu'en réalité, ça concerne, je crois, plus de 3 millions de personnes. Hein, dans ces foyers allocataires, il y a aussi des familles et des enfants. Et donc, voilà, c'est... Alors le fait qu'ils soient de plus en plus nombreux à percevoir l'allocation, ça signifie surtout que les personnes éligibles sont de plus en plus nombreuses, donc ça couvre des besoins.
Un tiers des personnes qui devraient en bénéficier de ce RSA n'en bénéficient pas. Comment expliquer cela ?
Alors là, on ne sait pas parfaitement le mesurer, mais c'est quelque chose de très général dans les minima sociaux. Hein, c'était déjà le cas avec le RMI. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient en bénéficier, qui ne le demandent pas. Il y a eu des travaux là-dessus. Hein, c'est soit parce qu'ils savent pas qu'ils sont éligibles, soit parce qu'ils ne veulent pas dépendre de l'assistante, soit aussi, et ça c'est un véritable problème du RSA et de la prime d'activité, parce que ça génère des problèmes d'indus. C'est-à-dire que ces minima sociaux sont calculés au plus près des revenus d'activité, et quand les foyers actualisent leur situation, eh bien, il arrive qu'on leur dise qu'ils ont eu un trop perçu et qu'ils aient à le rembourser. Or, on a affaire à des ménages très précaires qui dépensent tous leurs revenus et qui ne sont pas en capacité de rembourser.
Anne Edou, le gouvernement va créer en 2020 un revenu universel d'activité qui va fusionner le plus grand nombre possible de prestations. Il va englober le RSA, les aides au logement et la prime d'activité. Est-ce que vous croyez à l'efficacité de ce nouveau système ?
Alors, il faut toujours se demander ce qu'il y a derrière un projet de fusion, parce qu'en réalité, s'il y a une diversité aujourd'hui de prestations et de minima sociaux, c'est bien parce que les besoins sont complexes. Hein. Il y a une allocation d'adultes handicapés, il y a un RSA majoré pour les parents isolés d'enfants de moins de 3 ans. C'est bien parce que ces ménages-là ont besoin de toucher davantage. Et de toute façon, les minima sociaux sont calculés en fonction des ressources du foyer et de la structure du foyer. Donc voilà, la question c'est, faut-il vraiment réduire la complexité ? Et puis, est-ce qu'il ne s'agit pas de faire des économies ? Parce que si vraiment on rentre, par exemple, les allocations logement dans ce périmètre, alors que ces allocations bénéficient à une gamme assez large de foyers modestes, est-ce que ça ne va pas restreindre l'accès pour des foyers qui sont au-dessus d'un certain seuil, mais qui en ont besoin pour payer leur logement ?
Merci Anne Edou, qui était notre invitée économiste au Conservatoire national des arts et métiers à l'occasion de ces 10 ans du RSA. À la fin de ce journal, bien sûr, les prévisions météo. Vous l'avez constaté, nous vivons des heures estivales en ce week-end de l'Ascension. Le soleil brille généreusement sur pratiquement tout le pays avec des températures dignes d'une journée. journée d'été. En Moselle, les campings font le plein. Exemple, celui des Marais à Rémerin. Rémerin, les Putelanges, qui compte près de 350 emplacements et 12 mobilhomes. Les visiteurs sont ravis de profiter enfin de la saison estivale. Reportage Cécile Soulet de France Bleu Lorraine Nord.
Lunettes de soleil et maillot de bain, cet habitant de Farébersviller, Anthony, est venu en famille au camping des Marais pour profiter de la chaleur, de l'étang et de sa plage.
Les beaux jours, ils arrivent, donc ça nous fait plaisir. On peut se baigner, on peut s'amuser un peu avec les enfants. Et...
Première baignade de l'année ?
Première, toute première de l'année. Elle est encore un peu froide, l'eau. Il faut attendre un petit peu encore, que ça se réchauffe. Mais bon, les enfants, ils n'ont pas froid, ils vont dans l'eau encore.
Ici, à proximité de la frontière, plus de la moitié des campeurs sont allemands, comme Charles qui vient de Sarrebruck à 30 minutes de route, ravi de s'éloigner de l'agitation de la ville.
C'est tranquille, fait beau, et à Sarrebruck c'est toujours stress. La forêt comme ça, tous les jours, on fait le tour, ça fait une heure et demie comme ça. Impeccable.
Boris Christman, le gérant du camping, se frotte les mains. L'hébergement de plein air se porte bien.
Le camping, je pense encore vraiment de beaux jours devant lui. Au contact voilà, de la nature, la forêt, l'eau, il y a un engouement. Alors certains pour l'hôtellerie de plein air.
Le secteur a engrangé l'an dernier 1 million de nuitées supplémentaires en France. Une croissance portée principalement par la clientèle étrangère.
Voilà, enquête de Cécile Soulet de France Bleu Lorraine Nord. Le tennis à Roland-Garros, fin aujourd'hui du troisième tour. Il y aura forcément deux Français en huitième de finale. Benoît Paire, qualifié hier, sera rejoint aujourd'hui par Gaël Monfils ou Antoine Wang. Le Parisien et le Toulonnais se retrouveront face à face sur le central cet après-midi pour un duel franco-français inédit entre le numéro 1 français et le 146e. Antoine Wang, c'est la révélation du tournoi et il se fait une joie d'affronter Gaël Monfils, un joueur qu'il admire. Il l'a dit à Fabrice Abgral.
C'est un peu le showman, c'est justement le fait qu'il arrive à extérioriser, etc. Et puis là, je trouve que depuis le début d'année, il arrive à trouver un bon état mental pour bien jouer. Donc moi, il m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune, le fait de justement, parce qu'il m'a transmis tellement d'émotions à travers l'écran. Mais voilà, il m'a toujours paru agréable et on a envie de l'encourager. Donc voilà, après le fait de le jouer, il faudra que je fasse attraction de ça. Je vais essayer de me concentrer sur moi et dans tous les cas, il y aura un beau vainqueur qui sortira du match.
Les sports encore, la finale de la Ligue des champions de football, c'est ce soir à 21h à Madrid, Tottenham-Liverpool, le couronnement du football anglais dans la capitale espagnole, en fête et en alerte face aux dizaines de milliers de supporters britanniques. Ils seront dans le stade Metropolitano, mais de très nombreux fans ont choisi d'affluer à Madrid sans billet pour suivre la rencontre. À quelques heures du match, reportage à Madrid, Mathieu Le Taillac.
Ils sont quelques 100 000 supporters venus à Madrid pour assister à la finale, dont environ 30 000 arrivés sans ticket d'entrée. Voilà le défi à gérer pour la ville et pour les autorités espagnoles. Première préoccupation, la sécurité. La préfète de Madrid a présenté un plan spécial.
Il y a plus de 4200 effectifs de la police nationale, brigades mobiles, motards, brigades montées, brigades canines, hélicoptères, sans compter la police municipale, la garde civile, le SAMU, les pompiers. Autrement dit, c'est un dispositif de sécurité énorme à tous les niveaux.
Il n'y a pas que les policiers qui vont travailler dur ce week-end. Les commerçants comptent bien tirer parti de l'événement. Les hôteliers notamment défilent dans les médias, comme ce directeur d'un 4 étoiles du centre-ville.
Un week-end normal, on est autour de 90, 100 euros la nuit. En ce moment, on est à 900 euros samedi, le soir de la finale, et 700 euros la veille.
Quel que soit le vainqueur, les Madrilènes espèrent que la fête se déroule au mieux. La ville a l'habitude, elle a reçu la finale Bayern-Inter il y a 9 ans, et la Copa Libertadores en décembre dernier. Madrid, Mathieu Le Taillac, France Inter.
Le Livre Inter, les jurés sous la présidence de Riyad Satouf se réuniront dimanche prochain, le 9 juin, pour faire leur choix. Nous continuons la présentation des 10 livres en compétition. Aujourd'hui, le livre d'Elisabeth Fiol, Doggerland, publié chez POL, l'histoire d'un territoire qui a été englouti, le Doggerland. Elisabeth Fiol présente son ouvrage à Eva Bétan.
Le territoire est englouti depuis 8000 ans, au milieu de la mer du Nord. Au départ, pour qu'il y ait un roman, il faut qu'il y ait une problématique collective, et là elle y était, mais qui rencontre quelque chose d'intime. Et c'est venu donc avec les deux personnages principaux. Margaret, dont l'objet d'étude est justement le Doggerland, qui est géologue, chercheur à l'université de Saint-Andrew, et Marc, qui est parti lui vers la recherche pétrolière. Et quand je mets en scène cette tempête qui enveloppe le livre, elle fait aussi caisse de résonance.
Vous nous parlez d'un territoire qui a disparu. À quoi ça nous renvoie, ce Doggerland ? C'est un paradis perdu, qu'est-ce que c'est ?
Oui, probablement. La disparition du Doggerland, il y a déjà des villes qui se sont construites au Moyen-Orient à cette époque. Et les premières villes sont sorties de terre. Le Doggerland, c'est les derniers chasseurs-cueilleurs européens. Mais d'une époque tempérée, donc c'est la forêt de Fontainebleau. L'agriculture et l'élevage, ils ne connaissent pas. Donc ils vivent dans un rapport à leur environnement qui a un tout autre rapport à la nature que celui qu'on peut avoir. Donc, il y a ce moment de bascule que représente le Doggerland, puisque enfin, dans la vision que j'en ai, l'agriculture et l'élevage, c'est déjà une volonté de domestication de la nature dont on est les héritiers.
Et on pourrait dire l'arrivée du capitalisme, d'une certaine manière.
Ce sont les années Thatcher dont on est les héritiers aujourd'hui. On mesure aujourd'hui à quel point elle a imprimé un visage à l'économie. Enfin, le néolibéralisme, c'est elle. Avant, on était dans le libéralisme. Sauf qu'on arrive aux limites un peu du système. Et à l'époque, elle a donné un coup de pouce déterminant à l'exploitation du pétrole en mer du Nord. Donc, tous ces jeunes cadres de l'industrie pétrolière lui doivent des investissements massifs. Et donc, ils ont une fascination pour un personnage qui casse le plafond de verre. Il n'y a plus de limite.
Vous arrivez à faire une écriture de la tension, cet ouragan, ça se passe en 2 jours. Pourquoi vous mettez cette tension?
Ça a été une tempête comme celle de 99. Ça a vraiment été quasi un ouragan sur certaines zones. Donc quand on a ça en tête, ben la langue est embarquée. La tourmente qu'il y a extérieurement peut donner à voir d'autres tourmentes, des tourmentes plus intérieures ou des appréhensions face au fait de se retrouver face à face après 20 ans. Et j'ai besoin d'un fil comme ça qui tire, oui.
Voilà, avec Eva Bétan, Elisabeth Filleul, Doggerland en compétition pour le livre inter Les couleurs du ciel.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et Jean-Michel Golinski de Météo France.
Globalement, un week-end aux allures estivales, mais demain on notera quand même un ciel plus encombré sur le quart nord-ouest, possiblement quelques gouttes sur la Bretagne, passé la mi-journée et sous la grisaille, des températures en léger recul. Mais aujourd'hui, beau fixe généralisé avec éventuellement une ondée en cours d'après-midi sur les Alpes du Sud. Près de la Méditerranée, le vent de mer va limiter les températures vers 25 degrés en moyenne, contre 28 à 33 en général sur le reste du pays, avec par exemple 32 à 33 degrés sur la Gironde et des Charentes à l'Armagnac, 31 sur le Pays Basque, 30 sur les Pays de la Loire, le Centre, la Touraine, le Bassin Parisien et le Limousin, 29 sur l'Alsace et dans l'intérieur de la Bretagne et 28 degrés à Lille. Demain, excepté dans le quart nord-ouest, il fera 2 à 3 degrés de plus qu'aujourd'hui, avec toujours du soleil, mais lundi, retour d'un temps menaçant et plus frais.